Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec Aline Peugeot, l'héritière Peugeot, suite à la parution de son livre « Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance » chez Terre en Ciel Éditions. Dans ce podcast, Aline Peugeot raconte avec authenticité et sans détour un parcours compliqué, jalonné d'expériences douloureuses et d'interrogations existentielles, loin des clichés habituels des grandes familles célèbres. Bonjour Aline.
Bonjour.
Aline, je vous reçois aujourd'hui suite à l'apparition de votre livre « Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance chez Terre en Ciel ». Alors Aline, vous êtes l'arrière-petite-fille d'Henri Peugeot, de la société Peugeot, et vous commencez votre livre en déclarant que vous êtes, comme le consacre l'expression populaire, née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et pourtant, vous avez été adoptée par la famille Peugeot à l'âge de 5 ans. Aline, pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi cette autobiographie?
Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. C'était déjà pas une écriture thérapeutique dans le sens où ça m'a fait du bien de l'écrire. C'est justement parce que j'étais réparée, reconstruite moi-même que j'ai voulu partager cette reconstruction. Parce que je l'ai trouvée très efficace, très judicieuse, et donc certaines clés, il a fallu, il me semblait nécessaire de partager. Et j'ai écrit ce livre aussi pour montrer aux gens à quel point ils se laissent dominer par des préjugés, des étiquettes, des a priori, et pour leur faire comprendre qu'un nom, un physique, un statut social ne préserve pas des épreuves de la vie, et que quelquefois, et comme j'ai pu le rencontrer après l'écriture de ce livre d'ailleurs, c'est parfois même le contraire. C'est dans ces grandes familles où l'on s'imagine le moins qu'il se passe les choses les plus terribles. Je fais référence là à la Constance princesse de Polignac qui avait sorti son livre « Ma vie en révolution » en même temps que j'avais sorti le mien en auto-édition. Et dans cette autobiographie, elle révèle donc le viol qu'elle a subi par un de ses oncles. Donc, on prend conscience que même chez les princesses, même dans des grandes familles, la douleur est présente, la souffrance, et puis la nature même de l'être humain. Voilà, elle n'est pas différente parce que c'est Monsieur de quelque chose ou Madame un tel. Tout le monde est égal face aux difficultés de la vie et aux tribulations de l'être humain et de tout ce qu'il est capable de faire. Dans cette autobiographie, la première partie, je pose le tableau de toutes les épreuves par lesquelles je suis passée. Et la seconde, elle est vraiment consacrée à cette reconstruction. Il faut savoir aussi que je parle de médiumnité en seconde partie parce que je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai juste constaté à travers mes lectures que le mode de fonctionnement sur lequel je me reposais était un mode de fonctionnement différent des autres. Et j'avais bien remarqué que je faisais preuve de perspicacité, peut-être de rapidité dans les raisonnements, et j'ai compris que ce n'était pas du tout des raisonnements, qu'en fait, j'étais tellement restée dans cet état d'animal à l'affût, un animal sauvage qui rejetait tout de l'extérieur et donc qui n'avait pour référence que son instinct primaire, que j'ai gardé cette capacité de capter l'information avant qu'elle se manifeste. Ça, c'est les facultés des animaux, à percevoir le danger avant qu'il se manifeste devant eux. Et j'ai compris que c'était lié à ce fameux sixième sens dont exercent certains voyants, médiums. Et je raconte un parcours où j'ai exercé quelque temps de ce côté-là. Mais ce livre, au départ, avait comme sous-titre, par le premier éditeur que j'avais, le parcours d'une médium hors norme. Mais je me suis vite aperçue que ça m'enfermait dans l'ésotérisme, dans la spiritualité. Or, le véritable but et sens de ce livre, c'est un véritable guide thérapeutique pour tous les lecteurs. Il est beaucoup plus ouvert qu'à juste spiritualité, ésotérisme. C'est vraiment, il a sa place dans les rayons de bien-être, de psychologie, de voilà, c'est beaucoup, ça s'adresse à un public beaucoup plus large qui ne l'aurait peut-être pas forcément trouvé puisqu'il était dans le rayon ésotérique. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'éditeur qui voulait rien entendre et qui m'a laissé la liberté de changer le sous-titre en Le parcours d'une renaissance, qui est beaucoup, qui lui colle beaucoup plus.
Alors là, une renaissance, on parle de donc d'une rencontre, c'est qu'est-ce que vous appelez une renaissance?
Une renaissance, c'est-à-dire que je me suis aperçue à ma moitié de vie, vers une cinquantaine d'années, qu'en fait, je n'étais pas moi-même. Je m'étais créée une identité sur les attentes extérieures. Parce que comme tout être humain, la seule chose qu'on cherche quand on arrive au monde, c'est l'affection. On le cherche d'abord au travers les yeux de ses parents, ensuite à l'école, à la maîtresse. On espère qu'elle va bien nous aimer, qu'on est très heureux quand on a une image. À travers les petits camarades aussi. Bref, à travers la société. Tout notre parcours est jalonné d'une quête d'affection, de reconnaissance. Et souvent, on s'éloigne de nous-mêmes lorsqu'on est dans cette quête et qu'elle est jalonnée de souffrance, de frustration, de douleur. Parce que pour éviter d'être jeté, pour éviter de ne pas correspondre à ce que l'extérieur attend de nous et qu'on capte, eh bien, on se déguise, on revêt des panoplies différentes selon nos interlocuteurs. C'est épuisant et ça nous éloigne de plus en plus de notre véritable nature, de qui nous sommes avec ce que nous détenons comme capacité, comme faculté, comme potentiel. Et donc, je suis née il y a seulement 4-5 ans parce que je me suis trouvée, j'ai réalisé ma véritable nature, j'ai accepté mes cicatrices, voilà, parce qu'en spiritualité, on entend souvent dire « oui, mais on nous fait croire qu'il faut redevenir comme tout neuf après un parcours compliqué, mais ça, c'est juste impossible ». Par contre, on peut transformer des plaies béantes en cicatrices magnifiques, comme cet art japonais, dont j'ai oublié le nom, hein, mais vous voyez, hein, Fingshu, je crois, qui consiste à mettre de la dorure dans les fêlures d'un vase. Et voilà.
Kintsugi,
voilà. Kintsugi. Donc, et à accepter ces cicatrices, en prendre conscience, les assumer pleinement, et puis surtout les aimer, parce que c'est ce qui fait notre particularité et la richesse de ce que nous pouvons apporter.
Alors, vous avez passé, vous, votre vie à courir après l'affection de votre mère, de vos mères?
Oui, parce que j'ai eu une première mère génitrice, comme tout le monde, qui m'a abandonnée à l'âge de 2 ans. Et ensuite, j'ai connu l'orphelinat et à l'âge de 5 ans et demi, j'ai été adoptée par donc, la famille Peugeot avec des parents qui n'étaient pas doués pour être démonstratifs dans l'affection. Donc, mon parcours a été une continuité de la construction de ce sentiment d'abandon, en fait, et de ce non-amour manifesté.
Et donc, quand vous dites une continuité de ce sentiment d'abandon, qu'est-ce que vous avez fait pour pallier effectivement à ce manque d'amour, à ce sentiment d'abandon, à la peur de l'abandon même?
Je me suis sacrifiée pour l'autre. Je me suis sacrifiée pour les plaisirs, pour les désirs, pour combler les attentes de l'autre. Étant donné qu'à mes yeux, ma vie n'était pas légitime parce que je n'avais pas été désirée par ma génitrice, et en plus, elle m'avait abandonnée à l'âge de 2 ans. Que mes parents adoptifs ne me manifestaient pas une affection, attention, je précise, telle que je l'attendais, parce que j'ai réalisé en entrant en introspection qu'ils avaient eu leur manière à eux de manifester leur affection, mais que je focalisais tellement sur les attentes que j'avais envers eux que je suis passée totalement à côté. D'où ce manque que j'ai traîné avec moi, qui, si j'avais été un petit peu plus lucide, n'en aurait pas été un. Mais on ne peut pas non plus demander à un enfant d'avoir cette sagesse ou cette maturité de réflexion. Et donc, je me suis mis au sacrifice de l'autre en pensant que c'était ma place. Voilà. Puisque je n'avais pas de légitimité d'existence, je vais les mettre en pratique. Je vais trouver son utilité dans le service à l'autre, voilà. C'est pour ça que j'ai porté les fardeaux des autres, j'ai fait les épreuves à leur place, comment expliquer bon, évidemment, c'était pas le truc le plus judicieux parce que quand on se comporte de cette manière, en fait, vous savez, c'est les fameux trois profils. Hein. Moi, j'ai connu le profil de la victime, le profil du sauveur et le profil du bourreau aussi, puisque quelque part, à un moment donné, envers mes enfants, j'ai eu un peu la même attitude que j'avais subie, dans ce sens où à partir de l'âge de 5 ans, je m'éloignais physiquement d'eux. Voilà, donc ça leur a fait beaucoup de mal, mais ils ont compris maintenant, puisque moi j'ai aussi compris pourquoi j'avais fait ça, la raison d'être de ce comportement. C'est tout simplement parce qu'à 5 ans, lorsque j'ai été adoptée, j'ai eu, mes dernières illusions sont tombées, et c'est là que j'ai perdu toute attente envers l'extérieur. Donc je suis quelque part devenue adulte, je me suis émancipée de tout besoin de l'extérieur. J'avais plus besoin de parents, c'était trop tard, ils m'avaient déçu. J'avais plus besoin de d'une illusion quelque part. Je me racontais des histoires, j'avais plus besoin qu'on m'aime à un moment donné, mais c'était faux. C'était une attitude en vue de ne plus souffrir. Et voilà, donc c'est très complexe, mais tout le monde se retrouve dans mon histoire parce que même si les épreuves sont différentes, les réactions émotionnelles sont humaines et toutes les mêmes. Nous réagissons tous de la même façon.
C'est-à-dire que vous avez réagi en allant chercher l'amour auprès de d'autres hommes.
Alors, pas du tout, non. J'ai jamais été attirée par tout ce qui est relations charnelles, tout ça, étant donné que je n'avais pas de lien, j'avais pas connu les liens charnels avec mes deux mères. Donc, j'étais assez, il y avait une grande distance avec ça. Donc, les petits copains, c'était pas non plus une priorité, voilà. Bon, j'en ai eu, comme tout le monde. J'ai vécu dans la rue et là, lorsqu'on m'a fait la proposition d'entrer dans le milieu de la prostitution, j'y suis allée car j'étais convaincue que c'était ma voie. Dans ce sens où on me reprochait d'avoir un physique qui attirait l'attention, que dans cette famille Peugeot, quand on est une femme, il faut être une femme de tête et non pas une femme jolie, on va dire. Et j'avais pas les facultés cognitives qu'on attendait de moi. J'ai d'autres intelligences dont j'ai pris conscience, mais les facultés cognitives pures, scolaires, dont on attend pour une scolarité dans la moyenne, je les avais pas du tout. Et donc, j'étais un cancre à l'école, forcément. Donc, je ne répondais pas à ces attentes-là, à ces attentes de mes parents adoptifs. Donc, je me suis dit, le seul atout que j'ai, c'est ce physique. Et quand on m'a proposé d'entrer dans ce milieu, je me suis dit, bon, ben, c'est ma voie. J'ai que ça pour moi, de toute façon. Et mon père me disait tout le temps, on ne t'aimera jamais pour qui tu es, mais uniquement pour tes boucles blondes ou ton nom. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il a raison. Mes boucles blondes, allez, hop, ça doit être pour moi, cette voie. Mais comme je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, assez distante des relations charnelles, physiques, en même temps, je suis tombée dans l'alcoolisme pour oser faire ça, pour oser, parce que ce n'est pas dans ma nature. Je suis quelqu'un d'assez pudique, timide, et j'ai dû me faire violence. Et pour y arriver, je suis tombée en même temps dans l'alcoolisme, voilà.
Et comment on s'en sort de tout ça, de l'alcoolisme, de la prostitution? Comment on fait? Comment avez-vous géré le lien avec votre famille d'adoption? Le lien aussi, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez cherché à renouer à renouer un lien ou à créer un lien avec votre mère biologique?
Alors, déjà, j'ai caché cette double vie à tout le monde. Sur la fin, mes parents commençaient à avoir des doutes, mais je les ai cachés. Ma mère biologique, je n'ai pas gardé de lien. Je suis allée la voir par curiosité parce que, à force de ne ressembler à personne sur cette terre, je voulais voir ce que ça faisait de si j'avais, moi, une mère qui me ressemblait. En fait, j'étais très curieuse, très... attirée par ces liens charnels du sang, je voulais sentir si on sentait une différence, si c'était quelque chose de si particulier, parce que je voyais souvent passer des gens qui encensaient les liens du sang, la famille c'est sacré, les liens du sang, et je comprenais pas vu que je connaissais pas. Donc je suis allée la voir, j'ai rien ressenti du tout. Elle non plus, c'est pas quelqu'un de maternel, et J'ai pas gardé de lien parce que c'est quelqu'un de très déséquilibré, déstructuré, qui de plus ment énormément. Donc l'échange n'est pas constructif. Donc c'était pour moi pas une utilité de garder des liens. Et comment on s'en sort de tout ça? C'est j'étais avec, à l'époque quand j'ai décidé de m'en sortir. J'étais à l'époque avec un compagnon avec lequel je vivais les violences conjugales. Ça faisait 7 ans. Donc, en plus de l'activité que j'exerçais, j'étais frappée tous les soirs, la police, les hôpitaux, c'était quotidien. Et cet homme, je lui confiais ma fille, les trajets à l'école, les trajets chez la gardienne, puisque moi-même, je n'étais pas en état, puisque je buvais pour exercer. Et un jour, en me levant, j'ai découvert que lui se droguait. Et moi, j'ai une sainte horreur de la drogue, parce que j'ai peur de la dépendance. Je trouvais que l'alcool, c'était moins dangereux comme dépendance que la drogue. La drogue, pour moi, c'est imprévisible. Voilà. Et moi, à l'époque, je détestais tout ce qui était imprévisible parce qu'il me fallait toujours faire face à tout. Donc, l'imprévisible me faisait peur. Et comme mon abandon, quand ma mère à 2 ans m'a laissé tomber et m'a lâché pour la dernière fois chez ma nourrice, ça a été imprévisible. Beaucoup de choses ont été imprévisibles. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a donné un électrochoc et je me suis dit, mais c'est horrible, tu remets la vie de ta fille entre les mains de quelqu'un qui est encore moins apte que toi de s'occuper de ta fille. Donc, je l'ai vu et j'ai dit, bon, eh ben, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus jamais. Donc, il a rigolé, évidemment, hein, parce que j'étais à ses yeux une moins que rien. Je ne valais rien. Mais j'ai tenu. Du jour au lendemain, j'ai cessé 18 ans d'alcool. Alors, évidemment, c'était difficile. Je sais ce que c'est que de voir des choses qui n'existent pas. Il y a vraiment des choses bizarres. Et le corps réclamait. C'était pas facile du tout, mais en même temps, c'était tellement nourrissant de retrouver une lucidité, une rapidité de réflexion, un physique aussi qui s'améliorait parce que je n'avais pas vu à quel point l'alcool avait fait des dégâts au niveau de tout ce qui est cellulite, alors que j'étais mince. Mais cellulite, coupe rose, vraiment, ce n'était pas beau. Un regard très vague aussi. Et pour moi, les yeux sont importants, c'est la porte de l'âme. Et je lis beaucoup ce que sont les gens à travers leurs yeux. J'avais honte de mon regard, un regard tellement perdu, un regard de mort-vivant, en fait, une absence. Et donc, j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai vu la prostitution autrement. Déjà, je me suis dit, c'est plus possible de se faire avoir comme ça dans une maison close, d'avoir autant de clients et de repartir avec si peu d'argent parce que la proxénète s'en mettait plein les poches au passage. Et donc, j'ai quitté cette maison close, non sans dégâts, parce qu'on ne part pas comme ça d'un milieu pareil. Donc, il y a eu les menaces, il y a eu tout un parcours assez compliqué. Mais comme ils ont vu ma détermination, parce que j'étais dans une période où je n'avais plus rien à perdre, j'attendais la mort pour me délivrer, je n'avais plus aucun espoir de rien du tout. Donc, franchement, ce n'était pas quand on braquait un fusil sur la tempe que j'avais peur, pas du tout. Quelque part, ça m'aurait rendu service et ça a impressionné les gens qui étaient venus pour justement me faire peur ou m'éliminer. Ça les a beaucoup impressionnés, donc du coup, ils ont reculé. Et c'est comme ça que j'ai gagné mon indépendance. Et très vite, j'ai vu la clientèle qui venait. Avant, je ne les voyais pas, hein, j'étais dans un brouillard. Et comme je ne buvais plus, je les ai vus. Et c'est comme ça que j'ai réussi à ne pas passer à côté d'un client qui a fait la différence et qui est actuellement mon mari depuis 17 ans, voilà. Et qui m'a poussée à voir les choses autrement, qui m'a, avec patience et douceur, sous-entendu que je n'étais pas faite que pour ça, qu'il y avait d'autres possibilités, que ce n'était pas une fin en soi, qu'il y avait un autre avenir. Mais bon, j'ai freiné des quatre fers pendant très longtemps parce que quand ça fait des années que vous êtes là-dedans et que vous avez perdu tout espoir, vous refusez la main du sauveur, vous refusez la main tendue et vous voyez le dépressif en face de vous, mais vous ne voyez pas, vous, dans le miroir en tant que dépressive. Et à force de patience, j'ai bien voulu envisager les choses autrement en gardant une porte de sortie, en lui disant que si ça ne me plaisait pas, je retournais de là d'où je venais. Et il avait compris qu'on ne m'enfermait pas, que ma liberté, c'était ce que j'avais de plus cher. Et il a dit, mais tu as le droit, tu feras ce que tu veux, mais essaye au moins. Et ça m'a plu parce que j'ai appris à me réapproprier mon corps, à revivre, à ressentir des sensations. Je me suis aperçue que mes sens avaient été complètement anesthésiés. Donc, je redécouvrais la vie à ses côtés. Bon, bien évidemment, ça n'a pas été suffisant pour me rendre épanouie, heureuse comme je le suis maintenant. Ceci m'a demandé quand même une introspection sur plusieurs années. Le jour où je me suis rendu compte que j'avais tout pour être heureuse, une maison, un mari formidable, des enfants, mais que je ne l'étais pas, que je traînais un poids qui était que je ne supportais plus. Et que de nouveau, parce que ce n'était pas la première fois, j'envisageais de mettre fin à mes jours, mais comme j'avais 3 enfants, je ne voulais pas les abandonner comme moi, on m'avait abandonnée. Et c'est là que ce mode de fonctionnement, où je capte l'information avant qu'elle se manifeste, m'a sauvée, puisqu'il y a le mot spiritualité qui s'est imposé dans ma tête. Et à partir de là, tout a commencé, des années d'introspection dans ce monde-là que je ne connaissais pas, où j'ai fait des découvertes de notions psychologiques, de notions libératrices, de livres, le pouvoir de l'instant présent, les 4 accords Toltec, tout ça, ça a fait des déverrouillages. Je sentais les verrous qui sautaient à chaque compréhension, cellulairement intégrée, hein, parce que c'est différent de comprendre les choses mentalement et de véritablement les intégrer pour que la cellule, ça la répare. Et j'ai donc ainsi dû réparer toutes les cellules de mon corps. Et c'est là que je suis renée.
Et donc, depuis ?
Et depuis, je m'efforce, je m'épanouis dans la transmission de tout ce qui, moi, m'a révélé, m'a mené à l'accomplissement. Je ne fais pas les choses pour les faire. En fait, il y a une différence entre faire pour être et être pour faire. C'est parce que je suis que je fais les choses. J'en attends rien, je ne prévois rien. Je me laisse bercer par le mouvement de la vie et j'attrape des opportunités, des idées. Et je cherche pas à savoir si ça va plaire ou pas. Si chez moi ça vibre, c'est qu'il y a un sens et que ça va apporter à d'autres. Et jusqu'à présent, c'est effectivement un sans faute. Beaucoup se sont retrouvés dans tous les outils que je propose et je me consacre corps et âme, on va dire, à mes stages de formation, mes formations en développement personnel où j'accompagne les gens à se trouver eux-mêmes, à développer leur propre faculté extrasensorielle et à découvrir leur intelligence parce que il n'y a pas que moi qui suis cancre à l'école, mais qui ne suis pas pour autant un âne. Et voilà. Donc, beaucoup pensent qu'ils sont capables de rien, mais je les accompagne à découvrir leurs forces et actives et à solliciter celles qui sont en latence et voilà, et à les mettre au quotidien, en œuvre au quotidien. Et les gens, je transforme leur vie, je transforme leur vie privée, leur vie professionnelle, tout, leur vision aussi sur la vie. Je suis née en fait le jour où j'ai enfin aimé la vie alors que j'ai passé 50 ans à la haïr.
Quelles sont les relations, Aline, que vous entretenez aujourd'hui avec votre famille, la famille Peugeot, vos parents ?
Alors, mes parents sont décédés tous les deux. Et j'ai les relations que j'ai toujours eues avec ma famille, c'est-à-dire que ma sœur et moi avons été élevées un peu cloîtrées. On n'avait pas le droit d'avoir des échanges avec l'extérieur et avec la famille, ça s'arrêtait au Noël, enterrement. Donc, j'ai jamais eu beaucoup d'interactions avec la famille, donc c'est resté pareil. De temps en temps, j'ai un cousin qui me dit bonjour, une tante par-ci, par-là. J'ai quand même, à la sortie du livre, eu 2 tantes qui m'ont écrit des lettres en s'excusant parce qu'elles avaient été témoins de la maltraitance que j'avais subie et qu'elles avaient essayé d'intervenir, mais qu'elles avaient été rabrouées par mes parents et par leur mari aussi, les frères de mon père, qui leur avaient dit « ne te mêle pas de ça, les affaires priment sur la vie privée ». Ben oui, dans ces grandes familles industrielles, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, elles étaient assez pleines de remords, mais je leur ai dit que ce n'était pas grave, que c'était mon chemin, que maintenant j'allais très bien, donc il n'y avait pas de quoi avoir de remords. Et si je devais en passer par là pour comprendre énormément de choses, Moi, j'en suis pleine de gratitude, donc il ne faut pas qu'elles aient la culpabilité, une culpabilité que moi, je ne ressens pas. Et pour la famille, ça a toujours été scindé en deux, du côté de ma mère. Donc, mes grands-pères étaient frères. Du côté de ma mère, on a très difficilement été acceptés. J'ai déjà entendu le mot « bâtarde » quand on parlait de nous. Donc, ça, c'est resté. Et du côté de mon père, j'étais vraiment très liée avec ma grand-mère paternelle. Et aussi, c'était de ce côté où j'avais le plus d'interactions. Donc, aucun problème de ce côté-là, accepté à part entière et considéré aussi. Voilà, donc... Et j'ai découvert des membres de ma famille depuis la sortie de mon livre, comme Christiane Peugeot à Paris, qui a la galerie culturelle sur l'avenue des Champs-Élysées. Mm-hmm. Voilà, à force qu'on me dise en conférence, êtes-vous parenté avec Christiane Peugeot ? Moi, j'en savais rien parce que jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop intéressée à la généalogie, parce que je sais qu'on est nombreux, puis parce que pendant très longtemps, je ne me suis pas sentie appartenir à cette famille. Maintenant, j'en suis très fière et heureuse. Et donc, mon mari a fait les recherches généalogiques pour moi. Il m'a dit, oh punaise, oui, vous êtes vachement proche. Donc voilà, et je suis allée voir Christiane. Et effectivement, on a vécu dans les mêmes lieux, grandi dans les mêmes demeures. Et voilà, et j'ai aussi trouvé une Julie Peugeot qui travaille dans l'art, dans un média artistique aussi. Mais voilà, c'est des petits coucous fugaces, mais pas forcément des liens qui vont perdurer, voilà.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes où, Aline ?
J'aimerais avoir le temps de terminer mon second livre, qui sera justement de dernier de la classe au devant de la scène, La Revanche des Cancres, pour justement partager un peu les coulisses de mon parcours depuis la sortie de mon premier livre, en fait, ce que je communique, c'est toujours dans un message d'espoir, mais dans les coulisses, les gens aiment bien savoir que je rame, que j'en bave, que j'en ramasse aussi dans la figure au passage, que tout le monde ne m'accueille pas à bras ouverts. Donc, je vais un petit peu relater tout ça pour leur montrer que c'est pas grave, qu'il faut persévérer et que quand une porte se ferme, on peut toujours prendre une à côté. Et puis qu'on ne trébuche pas, en fait. On peut être ralenti, mais personne ne peut nous abattre ou nous couper dans notre élan quand on est sur notre voie et que ça vibre pour nous. Donc, ce deuxième livre est un de mes projets. Je cherche également la possibilité de faire adapter le premier à l'audiovisuel parce que j'ai eu beaucoup de retours d'adolescents en difficulté par leurs éducateurs qui disaient que c'était dommage que leurs copains ne lisaient pas des livres parce que s'ils avaient pu voir cette histoire au cinéma, ça les aurait sauvés pour certains qui s'étaient suicidés. Ou alors, ça pourrait aider à comprendre, à avancer d'autres aussi et à faire de meilleurs choix aussi pour eux. Donc, ça aussi, bon, c'est pas quelque chose que je cherche avec assiduité parce que j'ai jamais été mendiante à demander. J'attends que ça se présente, voilà. Je l'exprime et puis j'attends que l'offre se manifeste, voilà. Parce que j'ai gardé cette attitude d'avancer seule, de faire les choses à ma manière, à ma façon. Voilà, les seuls partenariats qu'on m'a souvent proposés jusqu'à présent, c'était toujours dans un but d'intéresser. Donc, je suis très intègre et je tiens à mes valeurs et je garderai ma ligne droite. Et c'est pour ça que j'avance seule, mais en même temps, je ne me sens pas seule. Hein. Je suis nourrie de tout ce que je rencontre.
Eh bien, merci Aline pour votre témoignage. Auriez-vous un dernier mot à ajouter à l'intention de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Oui, que les gens veuillent bien considérer que le bonheur, la réussite, la plénitude, c'est une question de regard sur les choses. Et c'est une philosophie de vie, une hygiène de vie, et que ça ne dépend en aucun cas de circonstances extérieures à eux-mêmes. Donc, en premier lieu, cessez de focaliser sur tout ce qui vous déplaît. Cessez. Et mettez-vous à l'œuvre de construire ce que vous aimeriez y voir à la place. C'est beaucoup plus utile, ça va vous nourrir, et ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous vous faites du mal en focalisant sur tout ce qui vous déplaît.
Et merci beaucoup Aline pour ce message d'espoir.
Merci Amal.
On a besoin aujourd'hui.
Merci, avec grand plaisir.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre d'Aline Peugeot, « Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance » chez Terre en Ciel Édition. Si cela vous a plu, faites-le savoir. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !